France Culture. Avoir raison avec Paul Valéry. Géraldine Mosna-Savoie.
La durée des œuvres est celle de leur utilité. Il y a des siècles pendant lesquels Virgile ne sert à rien. Cette phrase est de Paul Valéry et manque de chance ou comble de la clairvoyance, elle semble, 80 ans après sa mort, parfaitement s'appliquer à lui et à son œuvre. Il suffit pourtant, comme le dit encore Paul Valéry, d'un seul exemple, d'un seul argument, d'un seul prétexte pour qu'une œuvre revive. Et aujourd'hui, c'est l'argument philosophique qui s'impose. Car qui peut se vanter, comme Valéry, d'avoir consigné tous les jours, de 5h du matin à 8h, ses pensées et ses méditations à la manière d'un Pascal ou d'un Descartes? Quel philosophe, si ce n'est Paul Valéry, peut prétendre avoir cherché toute sa vie les lois de l'esprit et tenter de l'atteindre tel un maître yogi? Toute cette semaine, on dépoussière le trop officiel Paul Valéry et aujourd'hui, 5e épisode, atteindre son jeu transcendantal.
Monsieur Teste avait peut-être 40 ans. Tout s'effaçait en lui, les yeux, les mains. Il avait pourtant les épaules militaires et le pas d'une régularité qui étonnait. Quand il parlait, il ne levait jamais un bras ni un doigt. Il avait tué la marionnette. Il ne souriait pas, ne disait ni bonjour ni bonsoir. Il semblait ne pas entendre le « comment allez-vous ». Voici ses propres paroles.
« Il y a 20 ans que je n'ai plus de livres. J'ai brûlé mes papiers aussi. Je rature le vif. Je retiens ce que je veux. Mais le difficile n'est pas là. Il est de retenir ce dont je voudrai demain. J'ai cherché un crible machinal.
À force d'y penser, j'ai fini par croire que M. Teste était arrivé à découvrir des lois de l'esprit que nous ignorons.
Bonjour Benedetta Zaccarello.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous avez consacré de nombreux travaux à Paul Valéry, des articles, des livres, vous avez participé à l'édition en 13 tomes des cahiers 1894-1914 de Paul Valéry aux éditions Gallimard. Est-ce que si l'on doit aujourd'hui s'intéresser à Paul Valéry, clôturer cette semaine sur lui avec sa philosophie, c'est parce qu'il a réussi à découvrir les lois de l'esprit comme son personnage Monsieur Teste?
Monsieur Teste a sans doute été un personnage extrême qui incarne un but auquel Valéry aspire, surtout dans sa jeunesse. Et sans doute, il met en valeur un aspect performatif que la pratique de la philosophie a chez Valéry. Je ne sais pas si on peut vraiment évaluer la philosophie de Valéry sous la base de ses énoncés théoriques, sous la base des lois de l'esprit ou de ce qu'il a pu théoriser. Sans doute, ce qu'il a voulu nous laisser, c'est un essai, dans le sens aussi d'une pratique réitérée, dans le sens d'une conscience aiguë que la philosophie est une œuvre de langage, est une pratique de vie. Donc, en cela, sans doute, le Monsieur Teste incarne ce à quoi les exercices matinales de Paul Valéry voulaient aboutir.
Alors, il y a donc ce texte, la soirée avec Monsieur Teste qui date de 1896. Il y a ces cahiers qu'il a rédigés pendant 50 ans tous les matins, de 5h du matin à 8h du matin, ce qui est quand même vraiment une véritable discipline. Est-ce qu'on peut les lire ? Ces cahiers, alors il y a quand même 30 000 pages, il y a 261 cahiers, et ce texte de M. Teste qui est beaucoup plus court, comme des œuvres de philosophie.
Je pense que quelque part, pratiquement toute l'œuvre de Valéry peut être lue comme une œuvre de philosophie. Et d'ailleurs, cela est prouvé, à mon avis, par le fait que Valéry est beaucoup cité par les philosophes européens contemporains. Vous avez vraiment des noms majeurs tels Walter Benjamin, Jacques Derrida, Maurice Merleau-Ponty, Théodore Adorno. Valéry est beaucoup lu chez les philosophes et donc il a sans doute laissé une trace dans la philosophie européenne du XXe siècle. Tout ce qu'il fait, quelque part, a un objectif, une visée théorique et philosophique. Je pense qu'on ne peut pas séparer chez lui les œuvres philosophiques des autres œuvres. Il y a constamment une pondération de qu'est-ce que la littérature peut réaliser. Il y a constamment une critique de la philosophie, une réflexion sur les erreurs de la philosophie en tant que jargon, en tant que réflexion des professionnels. Mmh. Et en même temps, il y a un usage constant d'outils littéraires à des finalités théoriques et philosophiques. C'est là, je pense, vous citiez Monsieur Tess, qui est quand même une œuvre de jeunesse, même mmh. si ce dossier se compose d'extraits qui se cumulent tout au long de la vie, de la carrière d'écrivain de Valérie. On peut prendre comme son œuvre ultime le cours de poétique au Collège de France, où on lui donne la parole. Même s'il entend poétique dans un sens très large, mmh. mais on lui donne la parole pour parler sans doute de sa propre expérience de poète. Et au final, quand on va lire ce cours, il est très philosophique. Il discute avec une attitude très philosophique, de sujets très philosophiques.
Mais alors de quoi est faite sa philosophie, Benedetta Zaccarello? Qu'est-ce qu'on peut se dire en lisant? Parce que vous dites, on peut la lire comme une œuvre de philosophie. Et vous avez dit, il y a quelque part quelque chose de philosophique. Mais alors, qu'est-ce qui est philosophique chez lui? C'est quoi? S'il y a un concept chez Valérie, c'est quoi?
Ah, ça, c'est difficile à dire un concept, car à nouveau, je pense que c'est la pratique de l'écriture et la fonction que Valérie assigne à la pratique de l'écriture qui ont une nature vraiment philosophique. L'écriture est le lieu où la pensée se traduit en langage. Valérie, sachant très bien qu'il n'existe pas de pensée figée, ni de possibilité d'utiliser un langage courant. L'exercice philosophique se traduit en une expérience sur soi et sur le langage. C'est pourquoi l'auteur s'assoit chaque matin à 5 heures, au moins c'est ce qu'il nous dit, pour en quelque sorte, d'une part, saisir la pensée en train de se faire. Et par là, saisir les dynamiques progressivement. Pourquoi tous les jours, de manière réitérée? Parce que il s'agit pas simplement de prendre une instantanée sur la pensée en train de se faire au petit matin, quand on n'a pas encore revêti les personnalités et les rôles qu'on joue dans le théâtre de la société. Il s'agit pas simplement donc de prendre une instantanée sous la pensée en train de se faire et donc en train de précipiter un langage. Il s'agit aussi de saisir les dynamiques de l'esprit. Il s'agit aussi de saisir dans le temps les dynamiques de la pensée. Et donc, il faut nécessairement pouvoir en apprécier de manière réitérée les constantes et les variantes.
Qu'est-ce qui fascinait Paul Valéry dans cette dynamique, dans ses lois de l'esprit? Pourquoi il voulait savoir ça? Pourquoi il voulait percer ce mystère?
Ah. Il voulait percer ce mystère parce que il n'y a pas d'autre question. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, toutes les œuvres de Valérie, prenez la Jeune Parc, qui est quand même le récit sans doute très symbolique, mais quand même d'un cheminement de la conscience. Voilà, donc il n'y a pas chez Valérie d'autres questions que celle-là. À savoir, que peut un homme, à savoir comment un écrivain, un sujet peut essayer de se voir, de se comprendre en tant que sujet, nous dirions transcendantal, en tant que être quelconque. C'est pour ça que Monsieur Test n'a pas vraiment de traits, c'est pour ça que Monsieur Test n'a pas vraiment d'habitude particulière ou de caractéristiques qui dénoteraient sa personnalité.
C'est l'être le plus banal qui soit.
Exactement, mais c'est pas la banalité pour la banalité, l'enjeu est justement de saisir quelque chose de transpersonnel. Sauf que pour arriver à faire ça, donc atteindre cet au-delà de nos masques, de nos personnalités, il faut vraiment faire un grand effort. Il faut vraiment donner sa propre existence pour une sorte d'exercice solitaire. Voilà. On ne peut pas saisir les lois de l'esprit si ce n'est à travers une observation in vitro, à travers quelque chose d'artificiel, à travers une situation justement artificielle, hors quotidien. Et c'est ça la vocation philosophique de Valérie et des personnages tels Monsieur Test ou Descartes, qui incarnent cette idée de la philosophie comme pratique de vie, finalement, et comme éloignement de la foule.
Mais comme une pratique de vie, vous l'avez très bien dit, Benedetta Zaccarello, qui n'est pas personnelle. Il ne s'agit pas de devenir soi. Il s'agit d'être un jeu transcendantal, c'est-à-dire d'atteindre quelque chose qui soit le plus pur en soi. On peut lire, par exemple, cet extrait des cahiers. C'est vous qui me l'avez suggéré, Benedetta Zaccarello. Il dit sur ces cahiers, je n'écris pas mes opinions, mais j'écris mes formations. Je n'arrive pas à ce que j'écris, mais j'écris ce qui me conduit. Je note des figures qui se forment d'elles-mêmes, que je poursuis quelquefois, que je ne trouve pas plus nettes, plus harmonieuses, plus exactes que d'autres. Je m'arrête avant d'écrire qu'elles ne signifient rien, que je vais dire le contraire. Ce n'est pas la peine, car je sais quelle valeur elles ont pour moi. Ce qui veut bien dire qu'il essaye de voir comment il agit de manière la plus pure sans être lui-même. Et ça, c'est tout le paradoxe. C'est pour ça que j'ai parlé presque de maître yogi.
Oui, alors c'est un grand paradoxe. Valérie aime beaucoup le paradoxe. C'est aussi très emblématique de cette posture de Valérie pour lequel, au final, la véritable œuvre est soi-même.
Soi-même sans être soi-même, en fait.
C'est-à-dire que l'exercice de la pensée, l'exercice de l'écriture, ces exercices menés avec une rigueur extrême et avec une allure presque sportive, mais vraiment sportive de très haut niveau. Si on s'assoit 51 ans, pendant 51 ans, tous les matins à 5 heures.
Vous avez tenté de le faire, vous, déjà? Déjà pendant un an, de 5 heures à 8 heures?
Jamais même essayé, et à chaque fois je me demande comment il a pu rester si fidèle, même quand il était devenu un personnage très connu. On pense toujours à cet aspect otoscopique, on peut dire, de Valérie, donc tout le travail sur la figure de Narcisse, le se voir de la jeune Parc, etc. Mais en réalité, justement, comme vous le dites, il s'agit d'aller au-delà de soi. Sauf que pour aller au-delà de soi en tant que masque, il faut vraiment s'entraîner et il faut vraiment se construire en tant qu'être capable de cet exercice lui-même. Le résultat n'est pas l'œuvre. L'œuvre, dit Valérie, dans les cahiers, n'est que la toile de l'araignée ou l'excrément de la coquille. Au final, ce qui compte, ce n'est pas la création de l'œuvre, mais la construction du personnage de l'auteur, la construction de l'être qui écrit. Et en effet, vous faites bien, je pense que j'avais évoqué cette image du yoga, parce que, voilà, il s'agit d'un exercice rigoureux, réitéré, où on parle à partir d'un silence, d'une neutralité, d'un vide, et le résultat est d'une part la construction de soi, donc sa propre évolution, mais aussi une sorte de cartographie de la conscience ou de l'esprit, comme Valérie l'appelle, qu'en effet est une dimension qui est présente aussi dans le yoga en tant que tradition indienne. Je sais que William Marx a comparé le travail de Valérie à une œuvre de méditation. En effet, bon, lui, il est très familier avec les cultures du Japon, le bouddhisme zen. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais comme je fréquente plus la philosophie indienne, j'aimerais bien aussi rajouter comme une image supplémentaire, celle du yoga, en effet, parce que dans le yoga, il n'y a pas seulement cet aspect exercice et silence de la méditation, silence comme aboutissement d'une maîtrise de soi, de ses propres pensées, mais il y a aussi un aboutissement théorique qui va pouvoir être partagé dans les termes justement d'une cartographie de ces continents intérieurs qu'on explore dans la méditation. Donc, je pense que Valérie a en effet pratiquer la philosophie et il a su parler aux philosophes qui seraient venus plus tard ou ses contemporains grâce justement au fait qu'il a remis au cœur de la discipline non pas tant une série de formes ou de manières de penser propres à la tradition.
Oui, il n'a pas fait un système, il n'a pas produit des concepts.
Il aime le fragment, même très souvent, comme je le dis aux étudiants, ces essais sont en forme de dossier. Donc, il y a un effet cumulation et discontinuité. Tout comme quand on s'assoit pour observer sa propre pensée, on va collectionner des images qui ont à la fois un lien entre elles, mais subsistent aussi dans leur séparation, sans qu'on puisse vraiment les articuler. Voilà. Là, surtout, il parle souvent dans les cahiers de mon système, et il rêve d'un Allemand qui mettrait, c'est lui qui le dit, qui mettrait de l'ordre dans tous ces fragments. Mais en réalité, il construit une œuvre qui, justement, est un grand dossier d'instantané prise sur un sujet qui pense et qui écrit.
Alors, on en a parlé, là, des cahiers qui est donc une œuvre sans être une œuvre, qui est en fait plutôt la trace de cette pratique philosophique quotidienne de Paul Valéry. Il a tenté de la mettre en forme, il a échoué à trouver aussi un système d'organisation pour toutes ses notes. C'est aussi devenu un choix parce qu'il ne veut pas spécialement être philosophe, se présenter comme tel, mais il a quand même énormément d'admiration pour des philosophes. Il rend un très bel hommage à Bergson en 41, notamment parce que c'est un philosophe juif et qu'on est en pleine occupation, mais aussi il écrit plusieurs textes sur Descartes. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Qu'est-ce donc qui peut être plus spécifiquement humain et de plus réservé à l'homme le plus homme que l'effort intellectuel dégagé de toute pratique? Et quoi de plus pur et de plus audacieux que son développement dans ces voies abstraites qui s'écartent parfois si étrangement vers les profondeurs de notre possible? Peut-être ne serait-il pas inutile, dans une époque où ne manque ni la futilité ni l'inquiétude, ni la facilité, ni l'incohérence, de célébrer ces nobles exercices spirituels. Mais la littérature, jusqu'ici, a peu considéré, que je sache, ce trésor immense de sujets et de situations. Les raisons de cette négligence sont évidentes. Elles consistent dans l'extrême difficulté que nous oppose le langage quand nous voulons le contraindre à décrire les phénomènes de l'esprit. Que faire de ces termes que l'on ne peut préciser sans les recréer ? Pensée, esprit lui-même, raison, intelligence, compréhension, intuition ou inspiration. Chacun de ces noms est tour à tour un moyen et une fin, un problème et un résolvant, un état et une idée. Et chacun d'eux, dans chacun de nous, est suffisant ou insuffisant selon la fonction que lui donne la circonstance. Vous savez qu'alors le philosophe se fait poète, et souvent grand poète.
Voilà un extrait du texte intitulé « Sobrement Descartes » qui date de 1937, donc plus tardif dans l'œuvre de Paul Valéry. Paul Valéry, vous, un culte ? Bon, j'y vais peut-être un peu fort. En tout cas, il admire énormément Descartes parce qu'il a dit « je », parce qu'il a aussi tenté de dégager une méthode pour suivre le fonctionnement de l'esprit et parvenir à une certaine vérité. Est-ce que c'est ça la philosophie que Paul Valéry veut remettre au goût du jour, veut pratiquer contre une philosophie qu'il trouve, vous l'avez dit à un moment donné, Benedetta Zaccarello, jargonnante ?
Je pense que Valéry a toujours le goût de la provocation un peu. Donc Descartes étant un philosophe très critiqué, peut-être encore davantage dans les générations successives à celle de Valéry, mais quand même, je pense qu'il prend plaisir aussi à renverser
les clichés,
à prendre des attitudes un peu de provocation. Aussi, le Descartes de Valéry est une sorte d'autoportrait de Valéry en tant que philosophe. Ce qui intéresse beaucoup à Valéry chez Descartes, c'est ce geste qui, d'après lui, s'exprimerait dans le cogito, de dire, voilà, je, de mettre devant ce que Valéry appelle l'égotisme, la capacité à dire l'importance de la perspective individuelle et incarnée. Vous voyez, c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais en réalité, d'une part, comme Valéry le dit, il n'y a pas de théorie qui ne soit pas un fragment très soigné d'autobiographie. Il y a toujours un aspect incarné dans la théorie chez Valéry. On ne peut pas imaginer de faire de la philosophie sans passer par un exercice de soi, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, dans le cogito, Valéry saisit une sorte de cri, c'est lui-même qui le dit, du philosophe qui se rend compte, hein, c'est l'âge moderne, où il se rend compte qu'il doit prendre le devant de la scène. Il ne peut plus se cacher derrière une idée de sujets neutres et abstraits. C'est pour ça que l'exercice de l'écriture est si important, parce que même si on cherche un sujet transcendantal, c'est à travers l'individu, c'est à travers l'expression individuelle, c'est à travers la mise à un concept de son propre vécu que uniquement la philosophie peut se faire. Et c'est pour ça qu'il, dans le passage que nous venons d'entendre, c'est pour ça qu'il termine sous le fait que le philosophe est poète en quelque sorte. Il s'agit d'un art du langage. Donc dire « je » correspond aussi à assumer l'épaisseur du médium de la philosophie, le langage. Si la philosophie ne peut qu'être une pratique de vie, aussi elle ne peut qu'être un exercice d'écriture, une expérience sur le langage. Si on veut saisir cette matrice de ces dynamiques de l'esprit qui gît derrière le langage ordinaire et notre vie en société, nous ne pouvons que forcément partir à la recherche d'un langage qui n'est pas courant, qui va instaurer sa propre signification. C'est pour ça que Valéry dit que le philosophe se fait poète. Mmh. C'est-à-dire, il lui assigne une mission de créer un nouveau langage, comme les font les poètes, qui est nécessaire pour pouvoir dire ce que nous ne pouvons pas percevoir ordinairement dans notre vie quotidienne. Et c'est pour ça aussi que Jacques Derrida a emphatisé l'importance chez Valéry de cette conscience du fait que le philosophe est quelqu'un qui écrit.
Oui, d'ailleurs, il a dit, Derrida, Paul Valéry est le philosophe qui a compris que le philosophe écrit, et on l'entend bien dans ce texte, puisque, à propos de Descartes, il dit « Que faire de ces termes que l'on ne peut préciser sans les recréer, penser, esprit, raison, intelligence, compréhension, intuition ou inspiration ?» Ce qui veut presque dire que le travail du philosophe avec Paul Valéry est à la fois un travail sur soi, mais presque même moins un travail sur la pensée que sur la manière de le dire. C'est ça ? Il faut vraiment créer quelque chose, même peut-être se passer de ces concepts-là, vous pensez ?
Se passer surtout de ces concepts-là, c'est-à-dire que Valéry le dit à plusieurs reprises, il y a le problème de la philosophie en tant que discipline, en tant
que
pratique professionnelle, c'est que justement, on retombe toujours dans les mêmes pièges, on retombe toujours dans les mêmes questions, qui au final peut-être sont même mal posées, et nous sommes comme médusés, hypnotisés par certains concepts dont le discours philosophique semble ne pas pouvoir se passer, et donc c'est une sorte de deuxième langage ordinaire. Au final, ce jargon de la philosophie va redire constamment les mêmes choses. Néanmoins, en effet, la critique de la philosophie est essentiellement un exercice de la philosophie du XXe siècle. Il y a quelque chose de profondément philosophique dans le fait de critiquer les formes dans lesquelles la discipline s'est donnée jusqu'à soi-même, ça c'est, on remonte même à Hegel, et c'est pourquoi Valéry se définissait anti-philosophe. Il n'a pas choisi un autre mot complètement, il ne veut pas pourtant se dire philosophe, et donc il choisit cette définition de anti-philosophie pour soi-même, qui incarne à la fois, je pense, l'aspiration à vouloir se consacrer aux questionnements qui sont propres à la curiosité intellectuelle que la philosophie incarne, qui est parfois très éloignée de nos horizons du quotidien, et en même temps vouloir le faire en renversant les règles et les formes dans lesquelles cette curiosité qui anime la philosophie s'est exprimée jusqu'à ce que l'auteur ne prenne son stylo à main.
Alors Valérie, vous l'avez dit, parle presque des philosophes professionnels, mais qu'en est-il, j'allais dire, de nous, c'est-à-dire qui avons peut-être envie de pratiquer la philosophie, ou en tout cas voilà, d'être dans une forme d'exercice spirituel, qui n'avons pas le temps ou forcément les moyens voilà, de recréer ce langage-là? Est-ce qu'il pensait à n'importe quel lecteur, à n'importe quel de ses lecteurs qui ne sont pas forcément philosophes ou poètes, mais qui en fait ont quand même envie de pratiquer la philosophie? Est-ce que ça l'intéressait, cette question-là?
Sans doute, il n'y a pas d'auteur qui ne s'intéresse pas à son lecteur. Mmh. Valérie, pardon, lui-même a beaucoup insisté.
Oui, mais parfois, on s'adresse plutôt à ses pairs que...
À ses pairs, pas vraiment. Il a pas le goût de rentrer dans des querelles de l'époque ou de dialoguer avec des collègues philosophes de profession, si j'ose dire. En revanche, je pense qu'il s'adresse à chaque lecteur, et ça c'est toujours très actuel, à chaque lecteur qui aurait le courage d'une certaine solitude, d'un certain éloignement de ses horizons partagés où vraiment la philosophie n'aurait pas sa place. Il dit dans Le Retour de Hollande, l'homme des foules est poète, conteur ou quelque ivrogne de l'esprit. Il se noie dans la quantité des âmes ambulantes. Il s'enivre d'absorber un nombre inépuisable de visages et de regards. Et il conclut ce passage en écrivant « Tout autre est un Descartes », à savoir « Tout autre est le philosophe ou cette forme de philosophie que Valérie veut incarner lui-même ». Nous avons dit que, comme test, Descartes est une sorte d'image du philosophe que Valérie veut être.
Donc on peut conclure sur ces mots, Benedetta Zaccarello, que l'homme, dans chaque homme de la foule, dans chaque homme des foules, chaque femme des foules, on peut envisager un autre Descartes. On peut y voir l'envers un Descartes.
C'est-à-dire chacun qui aurait le courage de s'asseoir et de regarder à l'intérieur de soi-même pour saisir ces dynamiques de l'esprit qui vont au-delà des enjeux de société ou des masques des personnalités. Toute femme ou homme qui aurait le courage de se retirer en cette solitude si possible avec un stylo à la main, eh ben cette femme ou homme, elle est déjà rentrée dans une dimension philosophique sans peut-être le savoir.
Merci beaucoup Benedetta Zaccarello. On peut lire l'édition en 13 tomes des cahiers 1894-1914 de Paul Valéry. C'est chez Gallimard. C'est une édition à laquelle vous avez contribué. Et puis on peut aussi lire la revue des lettres modernes numéro 14 que vous avez consacrée à L'île sans nom, un projet dramatique inédit de Paul Valéry. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au cruel souvenir, là-bas dans ma patrie, le nom de roi mon père était ainsi fêté.
Je rappelle que toutes les œuvres de Paul Valéry sont disponibles aux éditions Gallimard. Un grand merci à Nicolas Berger pour la réalisation et à Marie-Claire Oumabadi pour la prise de son. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série d'Avoir raison avec, et d'ici là, sur le site et sur l'application Radio France.
n'est-ce pas?